France Info. France Info, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Bonsoir, bienvenue dans les informés de France Info, votre émission de débat et d'opinion sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag les informés, également sur le canal 27 de la TNT. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup d'actualités, mais avons-nous été petits bras en n'inscrivant pas à la liste des discussions des informés le sujet de cet article trouvé dans le Point? Un surfeur de Rio évite une collision avec un frigo. Voilà, alors c'était tentant, mais nous sommes restés sur du classique, voilà, tout simplement. Et j'en suis sûr que nos invités ne nous en voudront pas. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent le communicant Franck Tapiro. Bonsoir.
Bonsoir, moi je suis plutôt brésilien.
Également le directeur du théâtre du Rond-Point, le metteur en scène, surtout Jean-Michel Ribes. Bonsoir.
Bonsoir.
Également Marc Andelvette de Marianne. Bonsoir.
Bonsoir.
Et Philippe Vandel. Bonsoir Philippe. Bonsoir. De moi, France Info.
Frigo. Et moi je suis plutôt frigo. Ouais.
Il paraît, ouais. Et ce soir, on parlera de la fin du très très long processus électoral, d'un peu de bac également, et d'opposition. Mais pour l'instant, dans les informés de France Info, c'est l'heure de notre premier débat. Une énigme donc de 32 ans, on passe d'être résolu. Alors ça peut faire un peu Pierre Belmar de commencer un lancement ainsi, mais l'affaire Grégory hante ce pays depuis 1984. Une affaire où l'horreur du crime se mélange à la jalousie, le déclin social, où la photo d'un enfant de 4 ans rappelait sans cesse leur échec aux multiples enquêteurs. Une énigme oubliée qui réapparaissait puis disparaissait au gré des époques. Et aujourd'hui, on a appris que donc la grande tante de Grégory, Jacqueline Jacob, 72 ans, et son grand-oncle Marcel Jacob, 71 ans, ont été mis successivement en examen pour enlèvement et séquestration, suivi donc de mort. Une mise en examen trop rapide pour l'avocat de Marcel Jacob, Stéphane Juriana.
On vient de vous dire quand même qu'on ne savait pas comment était mort Grégory Villemain, 33 ans après. Et on nous met en examen pour séquestration, voire enlèvement. Quand, comment, où? On n'a aucun élément scientifique, aucun élément matériel. Rien. Si, un homme et une femme auraient fait des repérages, si j'ai bien compris, et l'homme portait une moustache. Je pense que dans la vallée de la Vologne, en 84, il y avait 8 hommes sur 10 qui portaient une moustache.
Voilà, l'avocat de Marcel Jacob, Stéphane Juriana. Alors, on va pas parler ici justement de l'enquête judiciaire, Franck Tapiro, mais c'est vrai que depuis l'annonce avant-hier de nouveaux éclairages sur cette affaire, on sent que la France se replonge véritablement dans son passé et que ça prend part dans toutes les discussions aujourd'hui. Pourquoi finalement cette affaire a marqué, à votre avis, à ce point, ce pays ?
C'est en fait le cumul de deux jeux de société bien connus, le Cluedo et le long cours. On n'a jamais vu une affaire durer aussi longtemps, et surtout plonger la France entière dans une interrogation incroyable. Une interrogation, ça veut dire que derrière, d'abord on aimerait savoir ce qui s'est passé, on parle quand même de la mort d'un enfant de 4 ans. Mmh. On se dit évidemment que l'enquête de police n'a pas été concluante, on se dit que tout ce qui s'est mélangé autour de ça, c'est-à-dire que les médias s'en sont emparés d'une façon incroyable, il y a eu des livres, enfin, on a porté Christine Villemain comme une star, rappelez-vous, elle est arrivée sur certains plateaux de télé, c'était même parfois un peu honteux.
Ou l'inverse, elle a fait de la tôle aussi.
Au début, oui, mais après elle a été starifiée, enfin, c'était assez curieux. En fait, cette affaire a vraiment marqué la France, et c'est vrai qu'on aimerait juste savoir ce qui s'est passé. Donc il y a des affaires comme ça qui s'éternisent, qui s'endorment, qui se réveille, mais tant qu'on n'aura pas ou un coupable ou des coupables, parce qu'apparemment il y en a plusieurs, voilà. Je pense que ça va continuer.
Jean-Michel Ribes, c'est vrai que ça fait 33 ans, on voit, et dans l'inconscient, on peut aller partout en France, on connaît cette histoire, on la connaît presque par cœur. Pourquoi vous, à votre avis, voilà, ça a marqué cet inconscient? On se souvient d'ailleurs que beaucoup d'intellectuels, à l'époque, on se souvient de Marguerite Duras, hein, d'ailleurs, qui avait écrit dans Libération un texte à charge sur Christine Villemain. Pourquoi finalement, pour vous, quand vous regardez ça avec le recul, pourquoi ça a marqué, à votre avis, un pays comme ça, dans son inconscient?
Moi, je crois qu'il y a une chose qui a été repérée d'une manière claire, c'est que, vous savez, il y a des panneaux sur la route, attention, zone dangereuse, attention, près d'un fleuve, vous pouvez vous noyer, attention, moi. Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, il va falloir en mettre un sur la famille. C'est-à-dire, la famille est une zone dangereuse. Quand on voit Dupont-Ligonnès, quand on voit le type de Nantes qui a tué, quand on voit les bébés dans les frigidaires, et ça, on oublie que la famille, dont Zid disait famille, je voulais, est quelque chose de dangereux. Mmh. C'est quelque chose, c'est un endroit qui n'est pas si calme que ça. Et vous savez, faut pas, attention, il y a des avalanches, attention, n'allez pas. La famille, c'est quand même quelque chose de pas facile et surtout de très dangereux depuis, depuis les cavernes, je crois.
Et mais justement, le fait que ça marque aussi à ce point quand même un pays, est-ce que finalement ça ne tient que sur finalement ce suspense, cette fascination,
non, c'est pas
morbide aussi finalement.
Non, mais parce que je crois qu'intérieurement, d'une manière inconsciente, on a tous la possibilité d'être dans cette histoire-là. C'est-à-dire qu'on est tous des familles. Qui n'a pas l'engueulade du dimanche, etc. Si elle va un peu plus loin, on poignarde la belle-mère. Enfin, je veux dire, oui. Oui.
Bah
oui,
non, ça, vous avez des cordelettes chez vous, mais non, pas du tout, pas du tout.
Comment ça non, va, j'ai pas ça dit des cordelettes, j'ai dit on poignarde.
Ça va jamais aussi loin, justement.
Mais bien sûr que ça va aussi loin. Moi, au Brésil, j'ai vu un type tué dans un restaurant d'un coup de revolver parce qu'on parlait mal de sa femme. Je veux dire que c'était avec Roberto Ataïde, qui était un auteur dramatique, dans l'endroit le plus sécurisé à Leblon, au Brésil. Tac. Donc, je crois que le crime et la folie et les crimes passionnels, il faut faire attention. C'est quelque chose qui n'est pas réservé à la mafia. La famille en est plein.
C'est tout simplement humain, en fait, finalement.
C'est-à-dire que, oui, c'est humain. Il y a une espèce d'échauffement passionnel doublé de l'affectivité, doublé de la jalousie, doublé de, je sais pas quoi, l'amant, le truc. C'est un endroit dangereux. Il faut y aller doucement dans la famille.
Philippe Vandel.
Alors, moi, il y a une histoire assez incroyable, parce que je racontais, il y a un moment donné où on pensait qu'elle était infanticide, cette femme. Oui. Je me rappelle de Marguerite Duras qui écrit, elle est sublime, forcément sublime. Elle dit, si elle a tué cet enfant, elle est sublime, forcément sublime, avec la chose à rebrousse-poil. Et il se trouve que, il y a une quinzaine d'années, vingtaine d'années, j'ai eu l'occasion de faire tout un déjeuner avec Christine Vimin, son mari et les enfants. Je vous racontais comment. Nous avions un ami commun qui est Arnaud Montebourg. Il était l'avocat de la famille Vimin et c'est lui qui a obtenu le non-lieu à Dijon. C'était en 93. J'ai retrouvé mes notes. Et on était là chez des amis communs dans une maison près d'Avignon avec une piscine. Et ce qui m'a vraiment frappé, c'est que contrairement à tout ce qu'on racontait, on disait que ces gens-là étaient froids, etc. Lui était un peu réservé. Mais d'abord, ils étaient très aimants l'un et l'autre. On peut pas jouer la comédie pendant 4 heures ou 5 heures de suite. Et très, très aimants avec les enfants. Il y avait quelque chose aussi d'absolument incroyable. C'est qu'ils avaient le petit Grégory était mort, ils avaient un enfant qui devait avoir 8 ans, et un autre qui avait 12, et un autre qui refaisait le step comme si, tous les 4 ans, il refaisait un enfant pour perpétuer ça. Et la phrase qui m'a absolument glacé, qui est absolument dingue, c'est qu'il y avait une piscine, on était un petit peu loin, et le petit courait autour de la piscine. Il y avait un petit, un grand, et au milieu, c'était une fille. Et tout d'un coup, le grand surveille son petit frère, et lui dit, ne t'approche pas de l'eau, tu sais que maman n'aime pas.
Ouais. Donc c'est vraiment une anecdote glaçante. Oui, Franck.
Mais il y a aussi quelque chose. Je me souviens très bien qu'au démarrage de l'histoire, tout le monde condamnait symboliquement Christine Vimin pour une raison qui était assez hallucinante. C'est son apparence, absence totale d'émotion. Je ne sais pas si vous vous rappelez des images.
Mais vous vous souvenez quand le maire de Toulouse,
Dominique Baudis,
avait transpiré à la télévision, donc il était coupable.
Voilà. Et elle, c'était l'inverse. Elle n'avait pas d'émotion, donc elle ne pouvait pas être sidérée. Elle ne pouvait pas être choquée, elle n'avait pas le droit, il fallait qu'elle pleure. Et en fait, les gens l'avaient condamnée parce que pour eux, elle avait une attitude inadmissible pour une mère qui venait de perdre son enfant.
Allez, l'info à 20h10, Pierrick Bonhomme.
Nous perdons un très grand Européen, mot signé Emmanuel Macron. Des dirigeants du monde entier commandent ce soir la mort de l'ancien chancelier allemand Helmut Kohl. Jean-Claude Juncker fait part de sa très grande tristesse. Le président de la Commission européenne dit perdre son ami, son mentor, l'essence même de l'Europe. Je suis fier de l'avoir connu, ajoute-t-il. Helmut Kohl a été chancelier pendant 16 ans, de 1982 à 1998. Il est mort à l'âge de 87 ans. La grande tante et le grand oncle, le couple Jacob, 72 et 73 ans, mis en examen dans l'affaire Grégory, tous deux avec la qualification d'enlèvement et séquestration de mineurs, suivi de la mort de l'enfant. Grégory Villemin, 4 ans, a été enlevé en 1984 avant que son corps ne soit retrouvé dans la Vologne. 30 morts et un bilan toujours provisoire après l'incendie de Londres, des dizaines de personnes toujours portées disparues, 24 blessés sont hospitalisés encore aujourd'hui, dont 12 dans un état critique. Près de 600 personnes habitaient dans cet immeuble, dont 20 étages ont été totalement détruits avant-hier. Selon les médias britanniques, 70 personnes manqueraient toujours à l'appel. Marine Le Pen est bien l'utilisatrice du compte Twitter au nom d'Anne Lalanne. Malgré ses nombreux démentis, France Info s'est procuré un email que la présidente du Front National a envoyé avec sa signature d'une adresse reliée à ce compte Twitter. Compte au nom donc d'Anne Lalanne, qui permet depuis 2013 à Marine Le Pen de commenter de façon anonyme la vie politique et médiatique française. Elle y dénonce régulièrement le racisme anti-blanc, y insulte parfois ses opposants et tacle des journalistes.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, encore un mot à propos donc de cette affaire du petit Grégory Marcandavet. Je me tourne vers vous. Est-ce que vous auriez pensé à un moment dans votre carrière de journaliste, vous travaillez pour Marianne, qu'on allait finalement débattre et parler de nouveau de cette affaire? Moi, j'avoue que quand c'est revenu et quand on s'est dit, tiens, on va faire quelque chose sur l'affaire du petit Grégory, ça m'a forcément étonné. Vous-même, dans les rédactions aussi, on sent que c'est voilà un mot, une affaire quand même importante et dans l'inconscient de beaucoup de journalistes.
Dans l'inconscient des journalistes, mais aussi dans l'inconscient des enquêteurs, parce que Franck Tapiro évoquait les critiques à l'époque à l'encontre des forces de police, des gendarmes, la guerre des polices.
Le juge.
Il y a d'autres histoires. Hein. On peut penser au juge Burgot, par exemple, aussi. Et donc, finalement, on peut quand même saluer l'abnégation de la justice française de se pencher sur... Un cold case, comme on dit aujourd'hui, une affaire enterrée, enfin semble-t-il enterrée, et ils ont quand même utilisé un logiciel nord-américain qui s'appelle Anacrim et qui permet de rassembler l'ensemble des faits recueillis par les forces de police, des enquêteurs, et qui permettent de révéler les contradictions de certains témoignages ou de certains faits et de pouvoir recouper davantage. Et donc, c'est des experts qui s'emparent après coup des enquêtes anciennes. Et ça, c'est une évolution du métier de police et ça, c'est à saluer.
C'est du data mining, en fait. Oui. C'est-à-dire qu'ils ont des logiciels qui permettent, avec des algorithmes très puissants, de rentrer en base de données tous les faits. Alors, à la fois les faits, avec qui s'est exprimé sur quoi, qui a déclaré quoi. Ils comparent, ils font des incohérences. Ils arrivent même, vous savez, aux États-Unis, depuis quelques années, à avoir un modèle prédictif. Alors, pour d'autres crimes, on le sait, par exemple, qu'aujourd'hui, à Los Angeles, depuis maintenant 3 ans, ils ont ce modèle-là, où des voitures de police arrivent à trouver des probabilités. Par exemple, ils l'ont fait pour les stations-service qui, en général, se font vraiment braquer. Mmh. Et ils ont récupéré, finalement, ils ont réussi à prendre des malfrats avant qu'ils ne fassent eux-mêmes le braquage.
Ça rappellera Minority Report. Ouais.
Ça fait 3 ans que ça existe aux États-Unis. Mmh. On devrait peut-être s'en inspirer un petit peu.
Moi, je rappelle quelque chose. Moi, j'étais déjà journaliste à Actuel quand il y a eu l'affaire Grégory. Et la critique de l'époque, c'était, ce sont les médias qui inventent ça. On disait Paris Match fait ça. Or, les gens de Match, quand tu leur parlais, ils disaient, quand on met le Grégory, ça plaît. À l'époque, il y avait Gorbatchev en URSS. Et Bizou, le patron d'Actuel, a une idée géniale. Il dit, est-ce que Gorbatchev est populaire dans son pays? Les journalistes d'Actuel vont là-bas. Ils prennent un avion, un train, un bus. Ils vont dans un village reculé. Au bout de la nuit, quand ils sont avec les babouchkas, etc., qu'ils ont picolé, et qu'ils parlent russe, et que les gens sont en confiance, ils disent, vous qui êtes français, on a une question à vous poser. Est-ce que cette maman, elle a vraiment tué son bébé dans une rivière? Et au fin fond de l'URSS soviétique, on parlait de cette affaire. C'est juste dingue comme histoire, j'en ai des
Jean-Michel Rive, c'est vrai que vous, voilà, ça vous rappelle, enfin voilà, quand vous, sur cette époque-là, on se souvient d'ailleurs, en fait, c'est une affaire aussi qui a pu faire évoluer aussi les rapports entre la police et les journalistes, hein, puisque les journalistes, en effet, étaient en première ligne. Pour vous, quelle image vous gardez, justement?
Ben, on garde évidemment l'image incroyablement bouleversante et ce sourire d'une tendresse infinie de cet enfant. Et d'un autre côté, on peut dire peut-être qu'il n'est pas mort pour rien. C'est-à-dire que d'un autre côté, ces débats, ces remises en question de la police, de la justice, des juges, il y a quelque chose qui a frappé l'opinion jusqu'au fin fond de la Sibérie. Mais en tout cas, ça veut dire que ça remue quelque chose de très profond et qui est une vraie question de la famille, je trouve. Oui. Et c'est pour ça que ça passe si loin. C'est qu'on a tous un enfant, c'est qu'on a tous... Bon. Et ça, je trouve que... Rendons hommage à ce petit martyr si merveilleusement charmant. Je crois qu'il n'est pas mort pour rien. Il nous a fait prendre conscience de quelque chose.
Allez, dans les informés de France Info, on va passer à un autre sujet beaucoup moins grave. Alors là, on va parler d'une manière un peu plus citoyenne, puisque dimanche, à la même heure, nous serons fixés. Alors, ai-je bien fait, d'ailleurs, de reprendre 2 fois du clafoutis chez grand-mère? Parce que le dimanche, c'est le déjeuner familial. Voilà. Ah bah oui, les élections législatives. Pardon, on me le dit dans l'oreillette, parce que j'avais... C'est vrai que c'est dimanche, le second tour. Voilà, et tout ça dans un enthousiasme débordant. Hein. On va faire la chenille au bureau de vote, c'est génial. Bon, c'est vrai que là, j'en fais un peu trop, parce que ça marche pas. C'est vrai, il faut bien le dire, après un record historique d'abstention, on risque un nouveau record historique dimanche, puisqu'on estime la future abstention à 53% des inscrits, des abstentionnistes qui veulent pourtant... C'est ça qui est assez étonnant, qu'ils veulent qu'En Marche n'ait pas une large majorité. Voilà, c'est un peu concept, parce que si on veut qu'En Marche n'ait pas une large majorité, il faut aller voter hein, en même temps. Mais dimanche, pas de surprise, ça sera comme la semaine dernière, en plus lourd, selon le directeur de l'Institut de sondage Odoxa, Gaël Slimane.
C'est clair, sûr et certain, il n'y aura pas de sursaut de participation. On sera dans une fourchette de 50 à 56% d'abstention, avec une valeur cible moyenne autour des 53. Mmh. Donc pas de sursaut de mobilisation, au mieux du mieux. une participation comparable à celle du premier tour, c'est-à-dire calamiteuse, et probablement la pire participation de toute l'histoire des grands scrutins nationaux, présidentiels et législatifs confondus. On peut dire que les mots d'ordre consistant à appeler à la remobilisation n'ont pas fonctionné.
Voilà, Gaël Simon de l'Institut Autoxa. Franck Tapiro, pourquoi c'est finalement ce désintérêt? On le voit d'ailleurs, pourquoi un désintérêt pour les législatives nous-mêmes? On a du mal un peu à le faire vivre aussi sur nos antennes. Pourquoi c'est ce désintérêt?
Alors, c'est pas mon goût de la provoque, mais je pense exactement l'inverse. C'est l'intérêt d'un scrutin qui va permettre à quelqu'un qui venait de nulle part, on le disait encore il y a un an, d'avoir une majorité absolue. Donc finalement, bah, ceux qui ont eu envie d'avoir Macron, parce que c'est 577 élections de Macron qu'il y a dimanche et depuis dimanche dernier, c'est pas vous pourriez même pas me citer 10 candidats en marche, mais c'est bien plus fort parce que Macron a inventé une marque. Cette marque est en train de gagner un pari incroyable. Donc les gens se disent quoi? Il a gagné le pari et laissons-le gagner. La France a toujours été légitimiste là-dessus. Laissons gagner le président. Donc encore une fois, les gens se disent, on va pas aller voter dimanche, de toute façon c'est fait, les jeux sont faits. Donc encore une fois, on peut se dire, certains disent les jeux sont faits, et d'autres au contraire, ils sont allés en masse en disant, ben nous on va lui donner la majorité qu'il mérite. Donc finalement, moi je regarde toujours le verre, vous savez, à moitié plein plutôt qu'à moitié vide.
Oui, tout à fait. Marc-André, c'est vrai que c'est assez étonnant pour vous, qui suivez ces élections justement pour Marianne, il y a un désintérêt pour ces législatives, véritablement ou pas? Est-ce que on le voit clairement pour beaucoup de gens, en effet, dans le sondage Odoxa, les jeux sont faits, donc bon, on va pas y aller.
J'emploierai pas le mot de désintérêt parce que pendant la campagne présidentielle, on a beaucoup expliqué aussi que c'était une campagne folle, inattendue, rempli d'affaires. Finalement, les Français ont quand même beaucoup discuté en famille de sujets sérieux la plupart du temps, de grands débats, des questions économiques et sociales, de l'Europe. Donc, je pense pas que c'est un signe de dépolitisation des Français, mais dans le même temps, il y a une sorte de fatalisme. Et on parle de quels Français ne vont pas voter.
Ouais, c'est ça. Oui.
Exactement. C'est quand même les classes populaires et petites classes moyennes.
Et les jeunes.
Et les jeunes.
Et les jeunes.
Et donc, ça pose quand même une vraie question. Ça pose une vraie question concernant, de fait, la légitimité politique du nouveau régime. Et ça pose aussi une question, pourquoi, par exemple, les forces de gauche, notamment Jean-Luc Mélenchon, n'a pas réussi à remobiliser durant toute la période des législatives, y compris ces classes populaires, alors même qu'il avait réussi à les conquérir au moment de la présidentielle. Ouais. Parce que la réussite de Jean-Luc Mélenchon au moment de la présidentielle, avec la France insoumise, c'est d'avoir récupéré tout un électorat qui avait abandonné les forces de gauche traditionnelles comme le Parti Socialiste.
Alors, on va continuer à en parler dans un instant. L'info à 20h20, Pierrick Bonneau.
La mort d'Helmut Kohl et la réaction très émue d'Angela Merkel, son héritière en politique. Helmut Kohl a changé ma vie de manière décisive, réagit l'actuelle chancelière allemande de Rome où elle doit rencontrer le pape François. Un tweet du ministre français de l'Intérieur Gérard Collomb, hommage et immense respect pour le chancelier. Il unifie à l'Allemagne tout en construisant l'Europe, ajoute le ministre. L'ancien chancelier s'éteint à l'âge de 87 ans. Il est resté 16 ans au pouvoir de 1982 à 1998 et a contribué notamment avec le président français de l'époque, François Mitterrand, a ancré l'amitié franco-allemande dans l'Europe. Le couple Jacob mis en examen pour enlèvement et séquestration de mineurs, suivi de la mort de l'enfant. Jacqueline et Marcel Jacob sont la grand-tante et grand-oncle du petit Grégory, enlevé en 1984. Le couple nie pour l'instant les faits qui leur sont reprochés 33 ans après. Pas de promesse à la sortie du ministère de l'économie pour les salariés de GMS, mais la confirmation d'une offre de reprise, celle du groupe GMD, annonce de Bruno Le Maire, ministre de l'économie. Après une réunion de la cellule de crise de Bercy en présence des représentants de salariés de l'équipementier automobile de la Souterraine dans la Creuse, l'entreprise GMS est en redressement judiciaire depuis décembre dernier. 277 emplois sont menacés. Donald Trump a trouvé ce soir une nouvelle cible. Le président américain dénonce le caractère brutal du régime Castro. Selon lui, l'accord conclu par son prédécesseur Barack Obama avec la Havane n'aide pas les Cubains et enrichit le régime. Donald Trump promet qu'il va revoir les conditions du rapprochement avec Cuba et demande à la Havane de libérer les prisonniers politiques.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, nous parlons des élections législatives, c'est dimanche et on prévoit déjà une abstention record. Je sais, on vous a déjà dit ça la semaine dernière, mais il y a encore plus de records de records. Jean-Michel Ribes, est-ce que vous pensez qu'aussi il peut y avoir une lassitude des Français après
Non, je crois qu'il y a une fatigue. C'est-à-dire quand on fait trois marathons de suite
Et qu'on vous demande d'en faire un quatrième et après de faire un truc dans la piscine et après de monter un truc et après sauter à la perche, c'est vrai que les gens disent ouais. Attendez, on va se reposer. Ouais. Je crois qu'il y a une fatigue politique. C'est-à-dire que je pense qu'il y a quelque chose qui est comme ça, on n'en peut plus. Et puis il y a une chose historique. On passe au 21e siècle. Vous savez que les siècles commencent 15 ans après qu'ils ont commencé.
C'est le problème, hein, d'ailleurs.
Non, ouais. Non, mais c'est vrai. Ouais, c'est Louis XIV meurt en 1715, ça commence le 18e. Waterloo, 1815, c'est le 19e. La guerre de 14, c'est le 20e. On y est. Bah, ça change. Voilà. Alors, il y a ça. Comme ça, d'une manière qu'on, ça change, tout change. Et Macron, bon, là, il arrive. Alors, on va dire, c'est Bonaparte, on va dire, c'est Murat qui vire les gens de l'Assemblée, allez où, virez-moi tous ces vieux cons. C'est quelque chose que, voilà, les gens ont besoin d'un vent frais. Je sais ouais. pas s'il le sera, mais je crois qu'il y a ça qui est complètement hors, comme disait Lacan, hors sens.
Ouais, hors sens. Philippe Bandel.
Ah non, mais Rib a raison. On est au 8e tour. Les primaires de la droite, ouais. Premier tour, deuxième tour. Primaires de la gauche, premier tour, deuxième tour. Je passe les primaires écolo, la présidentielle, premier tour, deuxième tour. Et là, on est au 8e tour ou 10e tour, on n'en peut plus. Sans compter que tous les experts qui nous racontent qu'il faut aller voter se sont tous trompés. Ils nous ont annoncé Fillon, il a perdu. Macron, je me rappelle très bien, il nous disait il n'a aucune chance d'être élu, ouais. car il n'a pas de parti, pas d'appareil. Et une fois qu'il a été élu, ils ont dit il n'a aucune chance d'avoir une majorité. Rappelez-vous, on parlait de triangulaire et de quadrangulaire. Il n'y en a aucune. Il y a un mot qui a entièrement disparu. Donc, à quoi sert d'écouter les experts? Je suis absolument d'accord avec Rib, virons tout le monde.
Mais, moi, j'aime beaucoup quand tu dis Rib a raison et je suis d'accord avec Rib. Je voudrais que tu le répètes plus souvent.
Ah, il faut que tu dises des trucs avec lesquels je sois d'accord aussi, tu sais.
Ça sera noté. Je suis d'accord avec Philippe.
Marc Onéved, alors, forcément, quand on a vu ce résultat de premier tour, il y a un débat qui a ressurgi, c'est celui sur la proportionnelle. Emmanuel Macron en a beaucoup parlé pendant la campagne. Il a dit qu'il introduirait une dose proportionnelle. Maintenant, on sait qu'il va le faire, mais le plus tard possible. Est-ce que ça serait vraiment utile pour vous? Est-ce qu'aujourd'hui, quand on voit finalement 400 députés, on voit une portion congrue pour l'opposition, est-ce que voilà, il serait temps à un moment de s'y mettre?
Oui, il serait temps, mais il serait temps à remettre en question ces institutions de la Ve République. Ouais. Bon, alors bien évidemment, comme Franck Tapiero l'évoquait tout à l'heure, les Français sont légitimistes, donc maintenant. Comme l'avait annoncé Emmanuel Macron en juillet 2015, les Français ont besoin d'un roi et maintenant ils se sont choisis un roi. C'est toujours pareil. En France, on haït ce qu'on adore et vice versa. Et sur les questions institutionnelles, le problème, c'est que faire un parallèle avec Macron, c'est Bonaparte. À l'heure de l'Europe et de la mondialisation, il y a quelque chose de risible.
Ouais,
alors après, effectivement, dans sa pratique du pouvoir, Macron, il marche sur l'eau entre guillemets parce que
c'est la une de The Economist.
Voilà, parce que derrière Sarkozy et Hollande, forcément, il remet du symbole, remet de l'incarnation, et donc effectivement dans une monarchie présidentielle telle que la Ve République, il en faut de l'incarnation.
Philippe Bandel.
Mais rien que si on reste sur le sujet de la présidentielle, il dit qu'il va le faire, sauf qu'avant lui, François Hollande l'avait dit et il ne l'a pas fait, et qu'avant lui, la proportionnelle, et qu'avant lui, Nicolas Sarkozy avait dit qu'il allait faire, et il ne l'a pas fait. Donc, il n'a pas envie de changer une loi électorale qui lui profite et qui peut le faire perdre. Donc, j'attends de voir s'il va le faire pour de vrai.
Ça serait une dose de proportionnelle, Franck Tapiero?
Bon, enfin, c'est l'arlésienne.
Oui.
Depuis que je m'attends à la politique, donc depuis plus de 35 ans, on parle de proportionnelle.
On sait plus que ça.
Il y a plein de typologies de proportionnelles, vous savez, hein, entre
les parties, l'intégrale, etc.
Donc c'est encore une fois tellement complexe qu'évidemment, pour moi, ça n'aura pas lieu. Et puis c'est pas du tout l'intérêt de Macron aujourd'hui. Pour vraiment installer, non pas son pouvoir, mais la refonte totale du système politique, il faut pas juste qu'il gagne dimanche. Dimanche est le point de départ. Il faut que ça s'installe et que tous ces partis, parce qu'il me fait rigoler, c'est que les partis qui disaient il ne peut pas, il n'a pas d'appareil, il ne peut pas, il n'a pas de parti. Ils avaient raison, puisque c'est pas un parti en marche, c'est autre chose. Il a inventé un mouvement, il a surtout inventé une vision. Donc maintenant, ces mêmes partis qui disaient ça disent « Mais c'est horrible, il y a un parti unique !» Mais ils n'ont pas compris que c'était pas un parti unique. C'est enfin une nouvelle donne de la politique. Donc même dans leur critique, ils se gourrent. C'est quand même dingue, faut les réveiller.
Marc Onéved.
Si quand même Macron aurait un intérêt à aller vers la proportionnelle, c'est celui, on va dire, de la mise en scène du débat démocratique. Parce que là, avec une chambre, on va dire, bleu horizon,
violet,
il faut quand même se rappeler que quand François Hollande arrive au pouvoir en 2012, le Parti Socialiste a l'ensemble des institutions démocratiques.
Les régions, le Sénat.
Il avait tous les leviers institutionnels, François Hollande. Ça ne lui a pas réussi, parce que justement ça ne fonctionne pas comme ça, y compris à l'heure des médias, des réseaux sociaux.
Alors, je suis pas d'accord parce que même avec cette élection là, il y a une grande partie de l'exaspération des gens qui était de ne voir aucun élu Front National dans l'hémicycle alors qu'il faisait 20-25% des voix. Et là, il y aura peut-être plus de personnes que les trois qui étaient là, donc ça sera presque paradoxalement plus divers qu'auparavant, ou alors c'était absolument monolithique, où t'avais la droite, la gauche,
le Front
quelques
National
communistes.
Aura vraisemblablement pas de groupe.
Entre 1 à 5 max. Hein. 5,
voilà. Ah, il n'est pas les 5 non. Alors, j'ai pas les bons chiffres. Alors.
Max, alors, c'est pour ça qu'on est resté finalement sur le même
alors, histoire. Jean-Michel, ce que je vous propose, parce que vous savez, derrière, voilà, nous sommes très précis à France Info, vous allez réagir ensuite, mais d'une manière incroyable, voilà, dans cette émission. On parlera également de l'opposition face au Macron, justement, et on va entendre un petit son. On parlera aussi, eh bien, de ces un an d'élection, et puis on reviendra un peu avec, en parlant des vaccins. Voilà la suite à venir dans les informés de France Info.
Je suis Johan, arboriculteur dans la Drôme. Saviez-vous que les premières pêches et nectarines françaises étaient enfin arrivées ? Je les ai cultivées avec passion et avec toutes les forces de la nature. Car mes vergers sont éco-responsables. Ils préservent la biodiversité, les sols, les ressources en eau. Découvrez-les sur pêche-et-abricots-de-france.fr.
Attention, attention. Corum est un placement immobilier, donc un placement à long terme qui n'est pas liquide immédiatement. Et évidemment, capital et revenus ne sont pas garantis. Toute la documentation est sur corum.fr. Voilà, c'est dit. Sinon, c'est quand même l'opportunité de placer votre argent dans l'immobilier à partir de 1060 euros, tout frais inclus, de toucher vos revenus tous les mois et d'investir dans toute la zone euro. Autre chose, la petite voix ?
Rien, tout a été dit.
Bon, j'aime mieux ça.
Corum, l'immobilier sans l'immobilité. Corum.fr.
Corum, visa SCPI délivré par l'AMF, géré par Corum Asset Management.
France Info Météo. Avec Gauthier, mobilier contemporain, made in France et garanti 10 ans. À découvrir dans nos magasins Gauthier et sur gauthier.fr.
Et à Météo France, on retrouve Elodie Calac.
Un week-end très estival, demain du soleil au programme. Un ciel quand même bien nuageux le matin entre les Hauts-de-France et les Ardennes, plus lumineux pour l'après-midi. On pourrait avoir une averse vers le sud des Alpes ou la montagne Corse sous l'effet de la chaleur. On aura beaucoup de vent dans le sud-est, 70 km à l'heure pour la Tramontane, 90 pour le Mistral. Pas moins de 10 à 18 degrés le matin, jusqu'à 19 à 22 dans le sud-est. L'après-midi, 23 degrés à Dinard, 26 à Nancy, 28 à Lille, à Lyon, 29 degrés à Paris et La Rochelle, 32 pour Bordeaux, 33 à Toulouse, jusqu'à 35 à Nîmes. Dimanche, un beau soleil pour tout le monde, une chaleur plus marquée pour tout le monde aussi, 27 degrés à Deauville, 32 à Paris, à Lyon, 34 degrés le long de la Garonne et en basse vallée du Rhône.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
Et l'info à 20h30, c'est Léo Téchère, bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu, bonsoir à tous. Nous perdons un très grand Européen, l'hommage d'Emmanuel Macron à Helmut Kohl. L'ancien chancelier allemand est mort ce matin à l'âge de 87 ans. Helmut Kohl, c'est la réunification des deux Allemagnes, c'est la réconciliation avec la France. Et Hervé Toutain, c'est cette photo qui a fait le tour du monde.
Sa photo, main dans la main avec François Mitterrand à Verdun le 12 septembre 1984, est restée le symbole de la réconciliation franco-allemande. Avocat passionné de l'intégration européenne, Helmut Kohl a été l'architecte, toujours avec François Mitterrand, des accords de Maastricht en 1992 et de l'introduction de l'euro, c'était en 1999. À la tête de la République fédérale allemande de 1982 à 1998, 4 mandats successifs, 16 ans au pouvoir, Helmut Kohl est aussi l'homme de la réunification allemande qu'il impose face aux réticences des puissances occupantes, dont l'Union soviétique, de Mikhaïl Gorbatchev. En Allemagne même, Helmut Kohl est l'une des figures historiques, l'un des piliers de la CDU et le mentor de l'actuelle chancelière Angela Merkel, elle-même originaire d'Allemagne de l'Est. Une fin de carrière ternie par les affaires de caisse noire de son parti, Helmut Kohl était retiré de la vie publique depuis 2002.
Hervé Toutain pour France Info. Enlèvement, séquestration puis mort du petit Grégory. Le grand-oncle et la grand-tante sont mis en examen et passent leur première soirée en prison. Marcel et Jacqueline Jacob continuent de nier les faits, mais ils n'ont pas d'alibi confirmé, selon le procureur général de la cour d'appel de Dijon. L'affaire remonte au 16 octobre 1984, date à laquelle le petit Grégory, 4 ans, fut retrouvé pieds et poings liés dans la Vologne, une petite rivière des Vosges. Un réfugié syrien et une artiste britannique, Mohamed Al-Ajali et Khadija Saï voilà les deux premiers noms connus des victimes de l'incendie de la Grenfell Tower à Londres il y a deux jours. Au moins 30 personnes sont mortes. Nouveau bilan du jour, mais bilan toujours provisoire. Des dizaines de personnes sont toujours portées disparues. Un homme âgé de 27 ans interpellé près de Chasse-sur-Rhône en Isère. C'est le propriétaire de la voiture dans laquelle ont été retrouvées 15 bouteilles pleines de gaz. Plutôt inquiétant dans ce secteur où deux sites industriels sont classés Seveso. Les habitants de Chasse-sur-Rhône ont passé l'après-midi confinés chez eux. C'est parti pour la bande à Dumerc. L'équipe de France féminine de basket affronte la Slovénie depuis quelques minutes. Premier match pour les braqueuses dans cette Coupe d'Europe qui sera la dernière compétition de leur capitaine emblématique Céline Dumerc. 20h33 sur France Info. On retrouve tout de suite Jean-Mathieu Pernin et les informés.
Les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info jusqu'à 21h sur France Info, franceinfo.fr sur les réseaux sociaux avec le hashtag Les Informés également sur le canal 27 de la TNT. Et eux, ils n'hésitent pas à se rafraîchir au torrent tumultueux et fougueux de l'actualité. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent le communicant Franck Tapiro, également le metteur en scène et directeur du théâtre du Rond-Point Jean-Michel Ribes, Marc Andévet de Marianne et Philippe Vandel de France Info. On parle des législatives, le second tour c'est dimanche et toute la semaine l'axe de campagne de beaucoup de candidats était voter pour moi car il ne faut pas donner les pleins pouvoirs à la République en marche. Alors c'est vrai que plus de 400 élus, ça interroge. Mais alors où sera l'opposition si elle est réduite à portions congrues ? Ah mais attendez, pour ça faut pas s'inquiéter. Ce que la République en marche a tout prévu, ce sera à la fois la majorité et l'opposition. Le secrétaire d'État au numérique, Mounir Majoubi.
Moi, je n'ai absolument pas peur d'une assemblée godillotte. Vous allez voir des gens qui vont parler, qui vont débattre, qui ne seront pas toujours d'accord. On va enfin remettre de la vie et on va enfin remettre du débat à l'Assemblée. Regardez ceux qui seront élus. Ce contre-pouvoir existera. Le débat sera profond. Le débat sera technique. Le débat aura bien lieu. Et vraiment, ce qui a fait la République en marche, ce qui a fait le succès de notre démarche depuis un an, c'est ce dialogue, c'est cette écoute, c'est ce débat interne.
Voilà, Mounir Majoubi ce matin sur France 2. Jean-Michel Ribes tellement puissant qu'on peut faire à la fois l'opposition, la majorité.
C'est-à-dire que tout d'un coup, on nous propose un programme, un film nouveau. C'est assez amusant. Moi, je trouve que c'est assez amusant. Moi,
vous avez plutôt un a priori positif, vous, par rapport à ce qui se passe
Moi, je ne suis pas laissé gagner, laisser lui la chance, il a le droit d'exister, ne coupons pas la tête au roi dès qu'il est nommé, etc. Moi, je trouve que c'est assez amusant. C'est un autre type de cinéma. Vous savez, c'est quand même la société du spectacle. Ouais, faut pas du tout... là, Guy Debord, il est dépassé complètement. Je veux dire qu'il est au-delà de tout. Bon. Donc, moi, je suis assez impatient de voir le film. Ouais. Et je trouve... Vous savez, déjà, le rapport l'épouse de Matron Brigitte, qui par ailleurs est extrêmement sympathique, cette inversion d'âge, etc., a été très favorable pour lui. Donc, c'est très nouveau, ça aussi. C'est un casting très nouveau, en dehors même des personnalités. Cette première dame qui est plus... Moi, je trouve que c'est assez excitant de voir ce qui va se passer. Alors, j'ai pas la machine à tout prévoir que Shapiro décrivait tout à l'heure, mais je suis assez excité de voir ce qui va se passer.
Oui, Philippe Vandel.
Moi, ça me rappelle le Coca, quand les gens n'aimaient pas le Coca, ils ont inventé une marque qui était l'anti-Coca. C'est-à-dire une marque qui n'était pas américaine, qui était à base d'orange et qui s'appelait Fanta, qui était un nom hispanisant. Et en fait, qu'on prenne du Fanta, c'est quand même Coca qui le fabrique. Et donc, il a à la fois le produit et son premier concurrent dans le même distributeur. Et c'est ce qu'ils vont faire à l'Assemblée. Franck Tapiro, il y a Jean-Luc Mélenchon. Je parlais tout à l'heure donc des opposants à Emmanuel Macron qui disait voilà, faut pas voter pour la République en marche pour pas donner trop de pouvoir. Lui qui se plaint donc du mode de scrutin dont on parlait tout à l'heure. Pas de proportionnel, il a déclaré « Ici, c'est la France, pas la Russie. On va se retrouver avec moins de représentants de l'opposition qu'en Russie. »
Ce qui est extraordinaire, c'est de voir donc les gens qui ont perdu cette élection se plaindre exactement de l'inverse de ce qu'ils ont dit pendant toute la campagne. Donc, ils sont à géométrie variable. Donc, il faut savoir, est-ce que Macron, c'était, comme ils l'ont dit, une étoile filante avec un mouvement comme ça, en marche, pour que tout le monde se moquait de lui? Ou est-ce que c'est quelque chose de très costaud, comme il est en train de le montrer? Quelqu'un qui réinitialise, je suis totalement d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure, la stature présidentielle, qui redonne du corps, qui redonne du sens, qui redonne du style. Mais hier, je l'ai vu à Viva Technologie, il a fini son speech en anglais. Le monde entier maintenant regarde Macron. Il a un mouvement, on dit, mais c'est quoi ce mouvement, on les connaît pas. Ils sont en train de faire...
Non mais, donc, c'est
un moment, non mais Mélenchon, à un moment, il faut juste qu'il se réveille. C'est parce qu'il a un bon score à Marseille qu'il faut qu'il fasse du déni. Je sais qu'on est champion du monde du déni en France, mais il faut que tous les politiques et Mélenchon premier se réveillent.
On peut se poser quand même une petite question autour d'Emmanuel Macron, c'est qu'on ne sait pas grand-chose, par exemple, sur la loi travail, sur tout ça, par exemple.
Mais si on sait plein de choses, il n'arrête pas de le dire.
C'est quoi, alors? Non, parce que bon, on connaît la philosophie, mais on ne connaît pas justement, c'est ça, tout le flou.
On ne connaît pas le détail, mais, ça, mais il a simplement fait en 6 semaines ce que François Hollande a fait en 4 ans et demi. C'est, oui, on n'a pas tout, on n'a pas tout.
Mais justement, on n'a pas
le détail. Il va quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite que ses prédécesseurs ont fait auparavant.
Et puis, ce n'est pas un argument politique de dire on ne peut pas laisser la majorité à... Depuis quand on, surtout pour une législative, on peut le faire pour une présidentielle, voter contre. Ça marchait avec Hollande, puisque c'était un vote anti-sarkoziste. Mais là, de dire, on ne peut pas laisser la majorité à, ça, c'est un programme. Mmh. Mais que Mélenchon parle de ses idées. Qu'est-ce qu'il va faire à l'Assemblée? Mais que la droite aussi essaie de se relayer. Mais moi, ce qui me sidère, c'est de voir ce vide politique face à ce conflit qui commence à arriver.
Jean-Michel Ribes.
Non, mais Mélenchon, il y a quand même une toute petite explication entre la chute de Mélenchon, qui avait réuni la jeunesse, etc.
19%, hein.
Quand, comme un vieux cabot de comédien qu'il est, il s'aperçoit qu'il gagne pas, qu'il a une mauvaise critique, qu'il rentre dans sa loge et il va se coucher vexé sans dire qu'il faut arrêter un parti fasciste, un parti comme le Front National, sans appeler, et ben c'est dégueulasse.
Mmh. Bien sûr. Mmh.
C'est dégueulasse.
Alors, voilà. C'est tirer une balle dans le pied en plus. Comment? Il se tire une balle dans le pied.
Marc-André, finalement, aujourd'hui, qui... peut-être l'opposant, finalement, numéro un aujourd'hui à Emmanuel Macron. Ça se bagarre là-dessus. C'est-à-dire, c'est qui? Jean-Luc Mélenchon, le Front National, ou alors une société civile avec des syndicats, des associations? C'est qui peut prendre aujourd'hui ce rôle?
Bah, vous les avez tous cités, effectivement.
Non, non.
Ça peut être...
Un mot, il a pas cité ni le PS, ni les Républicains. Mais c'est juste
ça. C'est tout le but.
Mais ils sont où? Mais ils sont où?
Mais c'est une tactique.
Non, mais le problème que vous évoquez, c'est que le Parti Socialiste et les Républicains ne savent pas où ils sont eux-mêmes. Ah, voilà. C'est-à-dire vis-à-vis du président de la République, vis-à-vis de la politique du président de la République. C'est-à-dire, parmi les rangs des Républicains, ils se partagent entre ce qu'ils appellent maintenant, entre eux, les constructifs, c'est-à-dire les gens qui vont plutôt soutenir les projets d'Emmanuel Macron.
Par exemple, Thierry Solaire.
Par exemple, Thierry Solaire, ouais. Franck Riester, par exemple. Oui. Et ceux qui sont dans qui se positionnent plutôt dans une opposition frontale. Éric Ciotti, par exemple. Et on retrouve la même chose au Parti Socialiste. Au Parti Socialiste, qui sera avec un groupe extrêmement réduit, de l'histoire du Parti Socialiste, on n'a jamais vu ça. Et dans ce groupe-là, il y aura des gens qui ont été sauvés, entre guillemets, par Emmanuel Macron, parce qu'ils n'ont pas eu de candidat En Marche en phase 2. Donc on peut citer
Stéphane Le Foll,
Manuel Valls, Stéphane Le Foll,
Marisol Touraine.
Et ces gens-là vont donner un blanc-seing au gouvernement. Et d'ailleurs, là, pour le coup, ça permettra... peut-être à Mélenchon de recomposer quelque chose à gauche. Voilà.
Mais je pense que moi, l'opposition, enfin les opposants, on ne les connaît pas encore. Parce que si on croit, si les anciens comme Mélenchon croient que c'est eux qui vont être, on va dire, fédérer pour représenter une opposition face à Macron, ils n'ont rien compris. Ce sont des gens qui ont accepté la victoire de Macron, la victoire justement d'une nouvelle donne politique, qui vont peut-être prendre conscience qu'il y a de l'espace à la droite d'En Marche et à la gauche d'En Marche. Et c'est ces gens-là qui seront les futurs opposants.
Donc peut-être en interne, En Marche.
Mais parce qu'ils vont reprendre encore une fois des vieilles techniques, les Mélenchon, le PS et les Républicains vont croire qu'avec leur vieille technique, alors on se met ensemble, toi tu prends ça, moi je prends l'Assemblée, etc., ça va marcher. Mais ils sont inaudibles. Donc je pense qu'on va avoir de nouveaux talents, j'espère, et à droite et à gauche, pas aux extrêmes, et à droite et à gauche, pour créer une opposition face à Macron. Parce que eux ne sont plus de l'opposition.
L'info à 20h40, Pierrick Bonneau.
On se souvient tous de cette image, le chancelier main dans la main avec François Mitterrand en 1984. On apprend ce soir la mort d'Helmut Kohl, il avait 87 ans. Helmut Kohl, chancelier allemand de 1982 à 1998, 16 ans au pouvoir. Kohl, c'est l'homme de la réunification allemande en 1990. Une réaction, celle du Polonais Donald Tusk, président du Conseil européen. Je me rappellerai toujours d'Helmut Kohl, un ami et un homme d'État qui a aidé à rassembler l'Europe, écrit-il sur son compte Twitter. Ils étaient en garde à vue depuis mercredi. Jacqueline et Marcel Jacob, la grand-tante et le grand-oncle de Grégory Villemain, mis en examen 2021 pour enlèvement et séquestration de mineurs suivi de la mort de l'enfant. Grégory Villemain, à 4 ans, a été enlevé en 1984 avant que son corps soit retrouvé dans la Vologne. La femme et l'homme âgé de plus de 70 ans ont tous les deux été placés en détention provisoire. Nathalie Kosciusko-Morizet a quitté l'hôpital. La candidate Les Républicains dans la deuxième circonscription de Paris est hospitalisée hier après avoir été agressée en distribuant des tracts sur un marché. « Je vais mieux », a-t-elle déclaré à la sortie de l'hôpital. « J'ai besoin encore de quelques temps pour récupérer ». L'ancienne ministre en ballotage défavorable face au candidat de La République En Marche, Gilles Legendre, dans sa circonscription. Il était le pionnier de la greffe cardiaque en Europe. Le professeur Christian Cabrol est mort ce matin à Paris à l'âge de 91 ans. Le chirurgien s'est éteint à l'hôpital de la Salpêtrière, là même où il avait réalisé sa fameuse greffe du cœur, la première d'Europe donc en avril 68.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, encore un mot à propos, bien sûr, du scrutin de dimanche, parce que, mine de rien, nous, ici, on a essayé de reculer le sujet le plus tard possible, mais c'est vrai que ça sera le dernier vote de l'année. Et bah oui, hein, depuis un an, on a tellement utilisé notre carte d'électeur que j'ai peur qu'elle prenne feu, en fait, dimanche. Un peu moins d'un an de processus électoraux où l'on peut clairement dire qu'il y a eu un avant et un après. Il y a un an, on parlait de loi travail qui pourrait donner du fil à retordre à Hollande pendant la campagne et de Nicolas Sarkozy tremblant pour sa candidature au simple nom de Big Malion. Bon, finalement, on a beaucoup parlé de Jean-Frédéric Poisson et de Sylvia Pinel. Dernier vote dimanche de 9 mois qui ont vu le paysage politique changer, la France se fracturer et Jean Lassalle en mauvaise posture pour sauver son siège de député. Philippe Vandel, c'est vrai que juste un petit mot là-dessus, cette campagne là quand même, ça se termine donc dimanche, dernier vote de l'année, vous le disiez, on a beaucoup voté, mais il y a clairement eu un avant et un après, pour une fois véritablement, là on a l'impression un big bang terrible électoral.
Sans guerre. Ouais. C'est comme non mais c'est vrai parce que normalement il y a du big bang quand il y a une guerre ou qu'il y a des circonstances exceptionnelles et là sans guerre il y a vraiment eu quelque chose. Moi je me rappelle dans toutes les interviews depuis 30 ans les gens disent la droite et la gauche c'est dépassé. Il faudrait des gens qui votent les mesures quand elles sont bonnes et ne les votent pas quand ils les jugent mauvaises et tout d'un coup ça risque d'arriver et je trouve ça c'est absolument dingue. Et juste demain mon mot quand même la question que je pose vraiment pour demain. Ouais. C'est est-ce que je vais reprendre du clafoutis ?
Voilà, exactement, vous faites bien. Jean-Michel Rive.
Oui, non, mais il y a quelque chose qui s'est passé, je trouve que c'est un peu comme il y a des grandes causes. Il y a eu un tel ennui, un tel dénigrement de la politique, il y a eu une espèce d'union nationale, comme il y a une union nationale pour tout d'un coup aller contre, je sais pas quoi, l'envahissement de la France par les Allemands. Il y a une union nationale pour dire, merde, arrêtez, on fait autre chose. Il y a une union nationale comme ça, parce que c'est quand même très, très ennuyeux. Ouais. Alors là, on dit, on arrête, quoi. On va maintenant rigoler un peu ou pas rigoler.
Ça dépend. On ne sait jamais. Vous savez, Jean-Michel.
Regardez, non, on ne sait jamais. Mais moi, je suis assez excité de voir ce qui va se passer. Je trouve qu'il y a un nouveau programme. Alors, il y a un film qui sort mercredi prochain qui va être assez intéressant.
Marc Onévède, il y a quand même un an, également, on parlait de Marine Le Pen. Certains pensaient qu'elle pouvait gagner, mais surtout que si c'était elle, elle ferait tout pour tout faire valdinguer. Là, on voit que tout est en train de valdinguer, mais avec plus de douceur. Ça veut dire que les populistes, comme on les a signalés, n'ont pas gagné, mais est-ce qu'il n'y a pas cette petite forme quand même de populisme avec Macron, de dire aujourd'hui le dégagisme, comme on l'emploie souvent, aujourd'hui, de tout dégager, de tout refaire.
Le dégagisme, c'est Macron, effectivement. Il a eu deux intuitions, Emmanuel Macron. Sur la première intuition, c'est une intuition tactique. Il a compris que François Hollande serait empêché de se représenter. Après, l'intuition stratégique, c'est de contourner les partis politiques et finalement de se retrouver dans une posture gaullienne, on a dit, au-dessus des partis. Il a contourné les structures traditionnelles, les partis traditionnels, mais également les journalistes politiques traditionnels, par les moyens technologiques. Et, c'est-à-dire, il a mobilisé notamment ses forces, son mouvement, par Internet. Et d'ailleurs, Mélenchon a fait exactement la même chose, en s'inspirant de Bernie Sanders.
Avec beaucoup de succès, quand même.
Les deux. Mélenchon comme Macron, de ce point de vue-là, ils ont réussi quand même quelque chose pendant la campagne présidentielle. Mais par rapport à tous ces éléments-là, parce que Jean-Michel Ribes évoquait l'Union nationale. À un moment donné, il faut, et vous évoquiez tout à l'heure également, le déni français. Bien évidemment, le coup politique d'Emmanuel Macron sidère tout le monde, et notamment dans les partis politiques. On a l'impression que c'est les lapins dans les phares d'une voiture. Ils sont totalement déstabilisés. Mais il faut quand même, et vous évoquiez il faudrait quand même pas se réfugier dans le déni au regard de la colère des Français et de la colère sociale des Français. C'est-à-dire que à un moment donné, Emmanuel Macron est quand même, entre guillemets, il faut pas qu'il se loupe ce titre ou double, parce que aux prochaines élections, ça pourra faire très 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 mal dans 5 ans. Et par ailleurs, sur le fond de son projet, vous parliez de qui sera l'opposant, ça sera peut-être la rue, son principal opposant. Mais on parlait des syndicats, mais le problème, c'est que les syndicats ne sont pas eux-mêmes extrêmement légitimes vis-à-vis de la population et notamment de la jeunesse.
Ouais.
Et c'est-à-dire, ça pourra être la rue, mais la rue d'une manière assez violente. Donc c'est pour ça que là, tout d'un coup, c'est la grande victoire d'Emmanuel Macron, mais il faut voir la suite.
On a vu quand même Franck Tapiro, c'est vrai que pendant on parlait tout au début de l'émission d'abstention. Oui. Au second tour de l'élection présidentielle, Marine Le Pen face à Emmanuel Macron, il y a eu plus d'abstention que d'habitude sur ce scrutin. On a vu surtout, au moment du premier tour, une France fracturée en deux. En gros, la France qui irait bien voterait Emmanuel Macron et celle qui irait mal voterait Marine Le Pen. Oui. Il y a des fractures très fortes aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron... il a conscience, de ça, et surtout quand on voit cette abstention permanente qui progresse auprès des couches les plus touchées socialement, est-ce qu'il n'y a pas
Non, mais c'est normal ce qui s'est passé, parce que un second tour Macron-Le Pen, personne à part quelques-uns l'avait imaginé. Donc en fait, les Français étaient plutôt sidérés qu'abstentionnistes. Et je pense que l'abstention, c'est que n'oublions pas qu'il y a des gens qui étaient déçus que Fillon soit pas au second tour, qui se sont dit je pourrais pas aller voter pour Marine et je peux pas donner mon vote à Macron. Il y a les jeunes qui sont à un moment aussi désolidarisé de ce qui se passait, parce que en fait tout le monde a été un peu choqué. Et je pense que les Français sont sous le choc. Pourquoi? Parce qu'on a dit pendant des années que les Français avaient une résistance au changement énorme, et là le changement leur a été pratiquement imposé. Donc en fait, ce qu'on parle d'abstention aujourd'hui n'a rien à voir avec les abstentions qu'on a vécues dans les autres élections. C'est qu'ils ont besoin de s'habituer à une nouvelle donne, à un président en dehors des clivages, à ce groupe de je ne sais plus combien de centaines de députés qui vont en fait remplacer l'Assemblée nationale, puisqu'ils disent même que au sein du groupe d'En Marche, il y a une opposition. Ouais. Donc, il faut que les Français s'habituent, mais vous allez voir, au fur et à mesure, s'il y arrive, il y aura moins d'abstention.
Il y a aussi que, normalement, on a des promesses électorales qui servent à rassembler.
Oui.
Et là, c'était des repoussoirs. C'est-à-dire, le revenu universel qui coûtait 400 milliards et le retour au franc de l'autre côté, c'était impensable. Et Pénélope Fillon, qui travaille sans travailler tout en travaillant, c'était juste impossible.
Philippe Vandel, on sait bien aussi ce qui a marché chez Emmanuel Macron, c'est justement d'en dire le moins possible sur son programme et de mettre lui en avant, il incarnait le renouvellement, physiquement.
Oui.
En
fait. Non, mais il a quand même fait des choses qui marchaient. Tous les gens, moi je me souviens un jour, j'ai vu un sujet sur les Galeries Lafayette qui ouvrent le dimanche. Ils ont demandé à des étrangers, des Français, des clients, le patron, les syndicats, des employés et des gens qui bossaient le dimanche, des gens qui bossaient pas, sur les 8 personnes interrogées, les 8 étaient pour. Bien sûr. L'ouverture des magasins le dimanche, c'est Macron. Donc c'est pas que de la gueule.
Et puis le maire a parlé aussi de renouveau et ça n'a pas marché pour lui. Hein.
Bruno Le Maire, oui. Alors Jean-Michel Ribes, juste une dernière chose, c'est vrai que cette année dimanche, on votera là pour la dernière fois. Philippe Vandel le disait tout à l'heure, on votera pour la 8e fois si on a fait tous les scrutins. Même un, si on veut rajouter, mais là, c'est les plus underground, ils ont fait la primaire des Verts au mois de septembre. Est-ce que finalement, voter autant, pour vous, c'est utile, c'est important pour la démocratie? Est-ce que plus on vote, plus c'est important pour la démocratie?
Oui, je crois, oui.
Oui, le je vote, crois, véritablement.
Oui, je crois que c'est une expression qui amène à ce qu'on voit aujourd'hui, mais c'est quand même à travers le vote que ça s'est passé. On ne peut pas dire aujourd'hui que le vote est antidémocratique. Alors après, que ce soit proportionnel ou... comme ça, à deux tours. Mais je crois que le vote, oui, est quelque chose de très important. D'un autre côté, moi, je me réjouis d'une chose. Si jamais Emmanuel Macron a une position gaullienne, ce que je dis à notre ami tout à l'heure de Marianne, c'est que la position gaullienne, au bout de 5 ans, ça arrive à mai 68. Et moi, mai 68, c'était quand même un moment délicieux.
Allez, dans un instant, on va parler d'un autre sujet. On en parle souvent, d'ailleurs, mais est-ce qu'il faut le réformer ou pas? Le nouveau président de la République a des idées dessus. C'est le baccalauréat, puisque certains d'entre vous le passent en ce moment. L'info à 20h50, Pierrick Bonneau.
Et Donald Trump annule purement et simplement ce soir l'accord conclu entre Washington et La Havane fin 2014. Il mettait fin à cet accord à 50 ans de guerre froide entre les deux pays. Mais voilà, le président américain trouve que cet accord n'aide pas les Cubains et enrichit le régime. Régime dont il dénonce la brutalité. Maintenant que je suis président, l'Amérique va dénoncer les crimes du régime Castro, déclare Donald Trump qui demande à La Havane de libérer les prisonniers politiques. Des réactions nombreuses ce soir du monde politique après la mort de l'ancien chancelier allemand Helmut Kohl. L'ancien président américain George Bush père salue l'un des plus grands leaders de l'Europe d'après-guerre. Selon Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, Helmut Kohl était l'essence même de l'Europe. Celui qui a été chancelier pendant 16 ans, de 1982 à 1998, est mort à l'âge de 87 ans. La grande-tante et le grand-oncle, le couple Jacob, 72 et 73 ans, mis en examen dans l'affaire Grégory, tous deux avec la qualification d'enlèvement et séquestration de mineurs, suivi de la mort de l'enfant. L'enfant, c'est Grégory Villemain, évidemment. évidemment 4 ans. Il avait été enlevé en 1984 avant que son corps soit retrouvé dans la Vologne. Une voiture contenant 15 bouteilles de gaz repérée à proximité de deux sites Céveso en Isère sur un parking de Chasse-sur-Rhône. Devant deux sites, donc l'un classé seuil bas, l'autre classé seuil haut. Par précaution, 200 personnes ont été mises à l'abri dans un gymnase et un périmètre de sécurité de 500 mètres a été mis en place par la gendarmerie.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, je vous avoue que pour terminer cette émission, nous n'avons pas été très scrupuleux puisque nous n'avons pas demandé à nos invités s'ils avaient ou non obtenu leur bac. Voilà, déjà s'ils l'avaient, s'ils l'avaient eu au rattrapage, si au moins ils avaient eu des bonnes notes. Voilà, tout ça, on l'a pas vérifié. Mais bon, ça n'empêche pas. On va laisser comme ça en suspens. Voilà, ce suspense tenant parce qu'aujourd'hui, après la philo, c'était l'histoire géo, moment toujours gênant, vous savez, où les parents motivent leur progéniture pour l'examen suprême alors que nous, médias, nous remplissons nos chroniques de « mais bien sûr qu'on peut réussir sans le bac, regardez Chimène Badi. » Eh bien, l'année dernière, plus de 88% des élèves de terminale ont eu leur bac. C'est un record. Philippe Vandel, on en parle chaque année de ce bac, l'intérêt ou pas du bac. C'est assez étonnant parce qu'il y a un petit côté un peu schizophrène au bac. On dit, il faut absolument l'avoir. Après, on nous dit, ça ne sert pas à grand-chose. Mais en même temps, si on veut faire des études, c'est utile.
C'est horrible. C'est juste un enfer si on ne l'a pas. Et si on l'a, c'est une formalité. Moi, il se trouve que j'ai passé le bac en juin-juillet 81. Juste avant que la gauche arrive au pouvoir. Et il y avait encore la section C, qui était très difficile.
Qu'est-ce que c'est que la
section C? Moi, j'ai fait le bac C, c'était les maths. Ouais. Il y avait, dans mon lycée, il y avait trois classes de seconde C. T'étais pas sûr d'aller en première. Il y avait deux classes de première C. T'étais pas sûr d'aller en terminale. Ouais, et en terminale C, t'étais pas sûr d'avoir le bac. Mais quand t'avais le bac C, c'était un truc dingue. Et ensuite, on a dit, c'est tellement dur, ce bac C est tellement dur, qu'on a fait la filière S, et on a retiré la géométrie dans l'espace, qui était le truc le plus complexe, et qu'on étudie en fac. Donc, plus on baisse le niveau d'une épreuve, moins cette épreuve n'a de sens et de valeur. Donc on peut filer 90% d'une classe d'âge au bac qui vaut rien, ou alors 5% et il vaut beaucoup.
Jean-Michel Ribes.
Moi, par-delà, est-ce qu'on peut avoir le bac ou est-ce qu'on, c'est utile ou c'est pas utile? Je trouve que le bac, c'est que ça, le sens du bac qui traverse la rivière. Je crois que le bac, c'est quelque chose qui, finalement, symboliquement, arrête l'adolescence et on passe à l'âge adulte. C'est plus qu'un diplôme. C'est quelque chose.
C'est un rite d'initiation.
Oui, tout d'un coup, quand on a le bac, ça y est, on est adulte. C'est plus ça que de savoir si on peut
avoir. Ceux qui l'ont pas, alors, ils sont.
Ceux qui l'ont pas, ils restent adolescents.
Ah, d'accord.
Et
d'accord.
C'est assez sympathique, d'ailleurs. Vous qui n'avez pas eu le bac. Vous êtes grand.
Je ne veux pas parler, c'est pour ça que je ne voulais pas vérifier. Voilà, absolument. Il faut bien réviser.
Mais s'il y a quelque chose comme ça, pourquoi les parents veulent absolument que leurs enfants aient le bac? C'est pour qu'ils. Tu vas être un homme, mon fils.
C'est ça. Justement, alors, Marc Andévène, on se souvient, l'objectif, Philippe Vandel en parlait, en 1985, de Jean-Pierre Chevènement, qui était ministre de François Mitterrand, c'était 80% d'une génération doit obtenir le bac. Aujourd'hui, on a vu qu'Emmanuel Macron souhaitait, lui, réformer le bac. Il souhaite vraiment plus de cours en continu, et surtout 4 épreuves seulement finales pour cet examen. C'est une chose auquel chaque ministre de l'Éducation, on a l'impression, doit rajouter un peu sa patte, non?
Oui, enfin, alors là, la nouveauté, c'est qu'Emmanuel Macron et son ministre de l'Éducation s'attellent à cette réforme
profonde,
dès le début du quinquennat. Ouais. Et réforme plus ou moins, on va dire, explosive en réalité. Parce que c'est un peu comme sélectionneur de l'équipe de foot nationale. Chaque Français a son avis sur le bac. Mais pour revenir sur les 80% de la classe d'âge, deux bémols, c'est pas 80% de la classe d'âge qui a le bac général, même si on parle souvent du bac général, il y a les bacs professionnels, bac technologique, il faut pas les oublier.
Et on commençait d'ailleurs avant.
Voilà. Et puis après, il y a tout un tas d'entrepreneurs, le MEDEF, qui vont expliquer, et d'une certaine manière a raison aussi, qu'il y a une partie des activités économiques d'aujourd'hui sont dans le service, sont sur les nouvelles technologies, et qu'il faut donc des salariés éduqués, on va dire. Donc, on se retrouve face à des multiples demandes liées, vis-à-vis de l'éducation nationale, qui sont difficiles à résoudre. Après, la réforme, effectivement, d'Emmanuel Macron peut être inquiétante sur un point, c'est que, finalement, il transforme totalement le bac et le lycée comme, on va dire, un avant-goût de la sélection, ensuite, sur le marché du travail.
C'est ça, voilà.
Or, le bac, comme le rappelait Jean-Michel Ribes, c'est aussi une institution. une institution républicaine. Et quand j'entends, par exemple, Laurent Bigorgne, dirigeant du think tank l'Institut Montaigne, dire...
Très influent.
Très influent auprès de Macron, dire c'est pas grave si tout le monde ne fait pas la même histoire, par exemple, c'est quand même très interrogeant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans notre monde, le niveau, comme on dit, a baissé, mais il n'a pas baissé pour tout le monde. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une inégalité sociale vis-à-vis de l'éducation qui va en s'accentuant.
Franck Tapiron,
mais une symbolique.
C'est vraiment un symbole encore, voilà.
C'est un symbole, mais c'est un symbole qui a changé. Il y a 30 et quelques années, j'avoue, oui, j'ai eu mon bac D. La symbolique, c'était quoi ? C'était quoi la question ? Est-ce qu'on va avoir son bac ou pas ? Aujourd'hui, c'est pas ça. La symbolique, c'est quelle mention t'as eu ? Donc on n'est plus sur l'obtention du bac, mais sur la graduation par la mention. Donc en fait, le bac, on va dire pratiquement tout le monde l'a. Maintenant, le clivage se fait sur la mention. Et on sait que même à l'étranger d'ailleurs, quand on veut aller travailler en Angleterre, aux États-Unis, au Canada, ils vous demandent pas si vous allez avoir le bac, ils vous disent attention, il nous faut une mention, minimum 16,5, etc. Donc encore une fois, on a changé de paradigme, on a changé de symbolique, tout le monde l'a, c'est un peu l'école des fans, mais après, tout le monde n'a pas les mêmes droits avec.
Non, c'est pas un peu l'école des fans, mais... c'est totalement, parce qu'il y a des gens qui ont 21 sur 20 de moyenne.
Oui, allez, les informés de France Info, ça doit se terminer, la discussion continue comme toujours, de toute façon, merci beaucoup Franck Tapiro d'être passé,
merci beaucoup
Marc Onévet de la Une de Marianne d'ailleurs.
Trump, si c'était une chance pour la France, l'Europe, voilà.
Merci beaucoup, super. Jean-Michel Ribes.
On accueille au point le cirque invisible, Victoria Chaplin et Jean-Baptiste Thiré qui viennent sans arrêt nous rappeler qu'on a 5 ans.
Exactement, et donc juste à préciser, pour ceux qui connaissent, ce sont les parents de James Thiré.
Voilà, absolument.
Philippe Vandel, vous, on vous retrouve pas lundi puisqu'il
non,
y aura
c'est spécial élection, débrief clafoutis élection, mardi, Maurice Barthélémy.
Très bien, à retrouver voilà, dans tout et sans contraire. Allez, il est temps pour nous de retrouver Matteo Maestrachi, bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu, bonsoir à tous.
Pour le classico au programme ce soir.
On va parler de l'Euro de basket féminin, il a débuté ce soir en République tchèque, c'est la dernière campagne internationale pour Captain Céline Dumerc. Exactement, on va parler du 15 de France de rugby sous pression encore demain, comme d'habitude. Et puis l'actu Mercato Foot avec cette arrivée imminente de Valère Germain du côté de l'OM.
Le classico, votre débat sport, c'est dans quelques minutes sur France Info.